Notre Père et notre Dieu, après ce moment merveilleux, passé, Seigneur, à te louer, à t'adorer, à te contempler dans toute ta gloire, après ce moment glorieux qui nous ont permis d'accomplir pleinement notre vocation de sacrificateur dans ton royaume, après ce moment où nous t'avons exprimé toute notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix, le moment où nous avons proclamé ta victoire, ton triomphe, Seigneur, sur la mort, sur le diable et toute son armée, sur le péché, sur le monde. Après ce moment, Seigneur, où nous nous sommes laissés conduire par ton esprit pour épancher tout notre être en ta présence et devant ta face, nous voulons maintenant, tout en demeurant dans ta présence, Seigneur, te tendre une oreille pour recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. Nous avons soif de ta parole. C'est par ta parole que tu nous façonnes à ton image. C'est par ta parole que tu nous modèles pour nous donner la forme qui te convient. C'est par ta parole que tu nous transformes profondément, que tu nous métamorphoses. C'est par ta parole que nous pouvons briller, briller encore dans ce monde des ténèbres. Oui, c'est par ta parole que nos vies peuvent être rendues radieuses, étincelantes, brillantes, phosphorescentes. Oui, c'est par ta parole et ta parole seule que nous sommes nourris. Alors, merci de nous la donner et merci de nous donner la capacité de la recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Si on peut acclamer le nom du Seigneur. Nous allons revenir à notre thème de la fois dernière, à savoir l'Ecclésia du Christ, métamorphosée ou transfigurée, ou alors défigurée. Je rends grâce à Dieu pour tout ce temps que nous consacrons à l'étude de l'Église de Jésus-Christ, car l'Église du Christ occupe une place importante, mes amis, dans le monde. Elle occupe une place centrale dans le cœur du Seigneur. Cette Église qui nous révèle comme étant son épouse qu'il viendra chercher et avec laquelle, eh bien, il partagera ses moments glorieux lors des noces de l'agneau. Cette Église a une importance, mes amis, extraordinaire, cruciale, une importance capitale. Et nous devons aimer l'Église comme le Seigneur lui-même l'a aimée, au point de donner sa propre vie à la croix pour elle. Nous devons donc tout faire pour que l'Église soit ce qu'elle est appelée à être. Que ce soit une Église radieuse, rayonnante, étincelante. Une Église, comme nous le verrons, eh bien, qui comprendra quel est véritablement le parlement de Dieu ici-bas. Que c'est par l'Église et à travers l'Église que Dieu, mes amis, fait avancer son règne ici-bas, que Dieu visite le monde. En dehors de l'Église du Christ, tout n'est que mort, tout n'est qu'idolâtrie, tout n'est que pourriture, tout n'est que corrosion. Ecclésia du Christ, transfigurée ou défigurée. Nous allons relire notre passage, aller à la rencontre de nos trois amis, Pierre, Jean et Jacques. Vous aurez remarqué que cette fois-ci, ce n'est pas Pierre, Jacques et Jean, mais c'est Pierre, Jean et Jacques. Évidemment, ça ne change rien, mais pour un philologue, ça a toujours une importance. Et voir et assister ensemble à cette expérience extraordinaire qui les a marqués à tout jamais. Cette expérience, mes amis, qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Dans le sens où, nous, lors de cette expérience, eh bien, deux figures importantes de la révélation biblique vont apparaître, l'un à gauche du Christ, l'autre à sa droite, à savoir Moïse, à savoir Élie, le prophète. Et il y a tant d'enseignements, que ce soit sur la personne du Christ lui-même, que ce soit sur sa relation particulière et singulière avec son Église, que ce soit pour chacun de nous qui constituons l'Église du Christ, Eh bien, il y a des leçons. Et c'est justement la raison d'être de notre montée, de notre escalade, de la montagne, de la transfiguration, à savoir l'escalade du mont Tabor. Luc chapitre 9, à partir du verset 28, nous lisons « 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. » Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. En d'autres mots, ses vêtements se mirent à briller comme la lumière de l'éclair. D'ailleurs, à ce propos, Matthieu nous dit son visage brilla comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, évidemment la lumière de l'éclair. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir ou qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils s'étaient réveillés ou ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître ». Et là aussi, c'est un terme qu'on ne trouve pas partout. On reviendra là-dessus, « Epistata ».« Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Il était complètement absorbé par cette vision extraordinaire au point de perdre son latin. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu ». Bien-aimé, écoutez-le. Ne vous laissez pas distraire par la figure de Moïse, par la figure d'Élie, mais toute votre attention doit être sur lui et sur lui seul. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, dont les autres disparaissent. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce jour-là rien de ce qu'ils avaient vécu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci d'acclamer la parole du Seigneur. Et gloire à Dieu. Comme je l'ai souligné le dimanche dernier avec ce thème, nous allons essayer de dresser un tout petit peu un état des lieux de ce que la Bible révèle comme étant l'Église de Jésus-Christ, comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Un bref état des lieux, oui, un laconique état des lieux de cette structure qui reste singulière, qui évolue dans l'espace et dans le temps, tout en étant une propriété divine, tout en étant une entreprise de la part du Seigneur sur cette terre. Mes amis, il suffit de jeter un regard sincère, un regard objectif sur la manière dont les églises fonctionnent aujourd'hui un peu partout, que ce soit ici chez nous à Kinshasa, que ce soit à travers toute la République du Congo, toute l'Afrique et même au-delà, de jeter un coup d'œil, un regard objectif aujourd'hui, de regarder à la manière dont les églises, mes amis, les assemblées qui se réclament du Christ évoluent pour se faire une idée de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Cela donc est important. Cet état des lieux est vital pour nous, car dans la plupart des cas, nous nous laissons berner, nous nous laissons tromper, mes amis, par toutes sortes d'enseignements, comme nous allons le voir, toutes sortes de théologies qui nous viennent tout droit du monde des ténèbres. L'Église aujourd'hui est attaquée de toutes parts et nous le verrons, de l'extérieur comme de l'intérieur. Oui, ce thème n'est pas seulement une sorte de radioscopie morale de l'Église, une sorte de IRB, j'ai inventé le mot, n'allez pas chercher ça dans le dictionnaire, c'est-à-dire l'imagerie par résonance biblique, l'équivalent de l'IRM. Vous connaissez cette technique médicale à laquelle on recourt pour avoir des images claires de ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? Des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont à l'intérieur. Et pour cela, il faut une IRM, voyez-vous. Ce n'est pas simplement cette IRB, imagerie par résonance biblique, mais c'est aussi un appel à une prise de conscience collective, un appel à tous ceux qui appartiennent au Seigneur de prendre conscience du danger sur lequel ou du danger qui guette l'Église de toutes parts, de voir sur quel chemin l'Église du Christ se trouve et de tout faire pour faire retrouver à cette Église son lustre d'antan, lui faire retrouver, Seigneur, eh bien, son éclat d'autrefois, sa splendeur d'autrefois, comme au premier jour dans le Nouveau Testament, lorsque l'Église commence. Quand vous analysez ce qui se passe aujourd'hui, à la lumière de cette Église du Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a un fossé abyssal. Voyez-vous, quelquefois on se demande si vraiment cette Église du Nouveau Testament a existé. Et oui, elle a existé. Elle a bouleversé le monde de son temps. Elle n'était pas constituée d'intellectuels, de théologiens, avec des cerveaux à plusieurs étages. Elle n'était pas constituée des grands de ce monde. La plupart, c'était de gens de la plèbe, de gens de la foule. Ils venaient des classes sociales défavorisées. C'était des pêcheurs de la mer de Galilée. C'était certains, oui, ils ont assumé des responsabilités sur le plan social, voyez-vous. Mais dans la plupart des cas, ce n'étaient pas des diplômés des grandes écoles, voyez-vous. Non. Mais à eux seuls, ils ont bouleversé leur époque. Ils ont marqué leur époque, mes amis. Par eux, à travers eux, le ciel s'est manifesté. Alléluia. Une église qui brillait comme l'étoile du matin, comme l'étoile bételgeuse dont je vous ai parlé la fois dernière. Une église, mes amis, brillante dans ce monde de ténèbres. Il y a moyen, mais pour autant que chacun de nous réalise sa responsabilité dans le corps du Christ. Ne dis pas, oh, ce qui arrive à l'église ne me concerne pas. Oh, c'est cette église-là, ce n'est pas mon église. Oui, oui. Non, nous devons tous nous sentir concernés lorsqu'il est question de l'Ecclésia du Christ. Lorsque des hommes et des femmes, des troubadours de tous bords, se lèvent pour proclamer des paroles perverses, pour recourir à des fausses prophéties afin de manipuler l'Église. Nous devrions nous lever, mais hélas, rares sont ceux qui osent encore dénoncer. Il y en a qui ont peur des réactions. Parce que dans les médias, ils sont considérés comme des dangers. J'en sais quelque chose. À chaque fois que je dénonce, il y en a qui se font un malin plaisir de cracher sur moi, de me souiller, de me traiter de tout et de rien. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas ça qui me découragera. J'essaie de marcher sur les traces de mon maître. Il a été traité de tout. Certains ont poussé très loin leur folie, leur aveuglement, leur obscurantisme, leur fanatisme, leur intégrisme religieux, au point de le qualifier d'être possédé par Belzébul. Vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est laissé décourager. Il y a un prix à payer pour proclamer la vérité, pour défendre la vérité. Jean-Baptiste l'a payé de sa propre vie pour avoir osé dire la vérité au roi, à ce roi pervers, immoral, criminel et cruel, Eh bien, il y laissa sa vie. Voyez-vous, on n'ose plus dénoncer par peur des représailles sur les réseaux sociaux. Oui, nous allons voir comment nous pouvons nous impliquer tous, comment chacun, pour sa part, peut faire quelque chose pour que l'Église se mette de nouveau à rayonner. Oh, alléluia! Quand j'ai vu tous ces jeunes, le mardi en venant, chanter, louer le Seigneur, moi-même, je suis monté, puisque Roger m'a donné l'occasion d'encourager les jeunes et de prier pour eux. J'ai été saisi par une émotion. J'ai dit, Seigneur, merci que ce jeune aille plus loin que possible. Que ça soit, que notre jeunesse soit une jeunesse qui ne pactise pas avec le mal, qui ne court pas après la célébrité ou même la notoriété publique, qui ne cherche pas l'approbation des hommes, qui ne cherche pas à être plus connu par les hommes via les médias et les réseaux sociaux, mais qu'il cherche à être connu par toi et à travers toi. C'est ça la vraie reconnaissance. Il y a des gens qui passent dans des rues, des gens que vous croisez dans des taxis, assis sur des motos, des gens que vous voyez passer, qui ne sont pas connus des réseaux sociaux, qui n'ont pas de likers, qui ne sont pas suivis, parce qu'ils n'ont aucun compte. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ils sont tellement en communion avec Dieu, quand ils se déplacent, eh bien le ciel tout entier est dans la joie. Le ciel tout entier les accompagne. Car ils sont complètement, mes amis, environnés de la gloire du Christ. Oui, aux yeux du monde, ils ne comptent rien. Ils ont une apparence peut-être méprisable, peu importe. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des géants de la foi. Dis Seigneur, que notre jeunesse comprenne. Oui, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai un compte WhatsApp. Ça me permet de communiquer. Mais je ne cherche pas la reconnaissance. Je ne cherche pas à être plus connu. Voyez-vous, c'est comme ça que vous avez vu que même nos séminaires qu'on a fait ici, on n'a pas fait d'affiches. Oui, il y aura des moments où on en fera. Mais cela nous a prouvé que Dieu n'a pas besoin de ce genre de publicité. Il est lui-même capable de faire sa publicité. Au jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu de pancartes. Au jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu de messages sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu anachronique, mais enfin, comprenez-moi. Au jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu tout ça. Les gens ne se sont pas circulés, n'ont pas circulé à travers tout Jérusalem en disant, venez, quelque chose va se passer là dans la chambre. Rien, si ce n'est que 120 personnes qui ont passé du jour dans la prison du Seigneur, qui n'avaient d'autre désir que de plaire à leur Dieu, qui n'avaient d'autre plaisir que de voir le Seigneur honorer sa parole. Celle qu'il avait dit, et vous attendez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père accomplisse sa promesse, celle dont vous m'avez entendu parler. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont cherché ça, et au dixième jour, le ciel a répondu présent. Au dixième jour, les écluses des cieux se sont ouvertes. Au dixième jour, le Saint-Esprit est descendu. Au dixième jour, il y eut un bruit qui est venu d'en haut. C'est ce bruit-là qui a attiré les gens. Voyez-vous, c'est ce bruit-là, mes amis, qui a créé des conditions pour attirer tous ceux qui étaient à Jérusalem pour les deux grandes fêtes annuelles, à savoir la Pâque et puis ensuite la Pentecôte. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue un instrument politique. Aujourd'hui, l'Église est devenue une sorte d'ascenseur social pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas réussi dans sa vie. On a erré comme un clochard. Ça n'a pas marché avec les études. Ah, je vais aller même dans une école biblique, comme ça je deviendrai pasteur. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être l'épouse du pasteur. Voilà. Et chaque épouse du pasteur veut être pasteur. Ce n'est pas parce que tu as épousé un pasteur que tu as le ministère de pasteur. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux uns d'être docteurs, d'être évangélistes, d'être pasteurs. C'est lui qui appelle. Oui, il peut appeler l'homme et puis après il appelle la femme. Attention. Mais il y en a aujourd'hui, c'est devenu la mode. Il y en a même qui en abusent. Allez. Allez. Où va-t-on? Où va-t-on? Nous sommes les princesses. Je le sais. Mais nous ne sommes pas encore chez nous. Nous sommes sur terre. Où le diable nous guette à tout moment. Ne lui donnez pas l'occasion. C'est un séducteur. Il a mis un moyen dans son carquois pour vous séduire, vous aveugler, vous faire croire que vous êtes la femme la plus belle de toutes les femmes des pasteurs, la plus intelligente. Regardez, quand vous marchez, vous voyez comment les gens vous regardent. Et là, vous-même, vous regardez dans le miroir. Ah, il y a Solo. Hein? Ah bon? Voici apôtre, oh là là. Voici apôtre, ça veut dire quoi? Voici bishop, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut dire aussi que notre langue, ou du moins nos langues, contribuent à cet état de choses. Par respect, pour la femme du pasteur, on l'appelle maman. Ah. Mais cela ne veut pas dire que les gens reconnaissent votre ministère. C'est simplement par respect. Voilà. Je ne sais pas si les femmes de ministres sont appelées maman ministre. Dites-moi peut-être. Moi, je mène une vie monacale, je sors très rarement. Ou alors les époux des femmes ministres. Ah, papa ministre. C'est par respect, mes amis. Ah, et puis on va, tiens, maman pasteur, et puis on finit par croire que Dieu vous a appelé. Attention. Voilà comment certains contribuent à la chute de leur mari. Voilà. Voilà comment certains ont conduit leur mari sur des voies où la cupidité est omniprésente, où la convoitise. Ah, Yompé, regarde un peu l'autre pasteur. Ouais, tu vas aller un peu. Nous, on a toujours cette petite ketch, ou je ne sais pas, des petites voiturettes là. Hein, volant à droite. Ah, Baninga Bazana Bajip. Ça l'appelle. Ah bon? Le pauvre pasteur, lui n'est pas là pour rouler dans. Il attend que ça vienne. Il n'a pas besoin de manipuler les gens. Il peut servir en prenant la moto. Nous, on l'a fait. Moi, je prêchais l'évangile dans cette ville, dans ce qu'on appelait autrefois les autoservices aïrs. Les foula-foula, voilà. J'ai monté exprès. Il y avait des gens, je me souviens, sur cette ligne. Après la réunion de jeunesse, on en prenait ici, ça descendait vers Selembao et puis ça continuait. J'ai prêché. Je me souviens, une fois, on était avec le pasteur Veilly. On ne regardait pas tout ça. Aujourd'hui, pour peu que Dieu appelle quelqu'un tout de suite, il voit les bénéfices. Même Israël n'a pas bénéficié des avantages de la terre promise comme ça du jour au lendemain. Ils ont erré, oui ou non? Ils ont vécu, ils ont connu une période où ça ne dépendait pas d'eux. Dieu a envoyé la manne. Ce n'était pas à eux de dire, Seigneur, maintenant. Non, ils attendaient. C'est lui qui avait le timing. Alléluia. Voyez-vous, ils ne pouvaient pas planter parce qu'ils étaient en voyage vers la terre promise. Mais puis viendra un temps, lorsqu'ils arrivent dans la terre promise, à ce moment-là, la manne a cessé. Ils devaient manger le produit de la terre promise. Alléluia. Ils devaient travailler. Travailler et puis récolter. Transfigurer. C'est changer l'aspect. C'est changer la nature de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez-vous, en lui donnant un caractère éclatant, splendide, magnifique, en lui donnant une certaine beauté. C'est ça, transfigurer. Oh, nous voulons que l'Église retrouve sa beauté. Quand on la regarde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens voient? Une Église remplie d'immoralité. Une Église où on ne parle que des élévations. Dieu va t'élever. Vous pensez que vous avez besoin de Dieu pour être élevé? Hein? Les gens qui aujourd'hui, normalement, si vous allez dans le domaine financier, ici, en Afrique, vous pensez que c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit qui est l'homme le plus riche d'Afrique? Hein? Ah! Lui n'est pas élevé. Dans le domaine de la finance, il est là au sommet. Hein. Quand il passe dans des pays maintenant, M. Dangote est flatté par tout le monde. On lui déroule les tapis rouges. Tout le monde cherche à lui parler. Parce que, il a le moyen d'apporter quelque chose à l'économie d'un pays. Mais il y a aussi défiguré, c'est modifié, c'est dénaturer quelque chose. Ou une personne, la rendre laide, la personne. Et la question que nous sommes posées est celle-ci. L'Ecclésia du Christ est-elle une église en voie de transfiguration? Une église qui ressemble de plus en plus à celui qui se révèle vis-à-vis d'elle comme étant son époux. Est-elle une église en voie de métamorphose? Une église transformée de jour en jour et de gloire en gloire? Ou alors, c'est une église de plus en plus défigurée, qui a perdu toute sa brillance et son éclat? Voyez-vous, cet éclat que l'Église a connu dans ses tout débuts, dans le Nouveau Testament, mais aussi cet éclat, cette splendeur qu'elle a connue lors des moments de réveil à travers l'histoire de l'Église. On a vu l'Église, mes amis, retrouver sa place, c'est-à-dire être au sommet du mont Tabor et se mettre à briller de nouveau. C'est ainsi qu'on a parlé du réveil de la Pentecôte avec Azusa Street. On a parlé du réveil du pays des Galles. On a parlé du réveil dans les îles, l'île de Timor. Même ici chez nous, c'est parce que nous, on n'écrit pas. On n'écrit pas. Ou alors, quand on écrit, on ne recourt pas aux sources fiables. Voyez-vous, on va interroger des gens. Déjà, au départ, la méthodologie est faussée. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? On peut acclamer le Seigneur? L'état de l'Église est important. Voilà pourquoi cette question est d'une importance capitale, cruciale, primordiale. Car nous n'avons jamais oublié qu'il y a un seul type d'Église que le Seigneur viendra chercher en ce jour-là. Et je tiens à faire partie de cette Église. Heureux ceux qui en feront partie ou ceux qui en font déjà partie aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui vivent en communion avec lui, quel que soit le prix à payer. Ceux qui possèdent leur corps dans la sainteté. Ceux qui cherchent et poursuivent la paix avec les autres et surtout, comme nous dit Hébreux 12, 14, surtout la sanctification. Sans laquelle personne ne verra. Nous connaissons ce verset. Et en conséquence, que faisons-nous? Voyez-vous, ceux qui ont compris l'importance de mettre en pratique le proverbe 83, garde ton cœur plus que tout autre, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Mais dans la plupart des cas, on prend plus soin de son corps qu'on habille. Voyez-vous, on prend plus soin de son allure physique. C'est bien tout ça, mais dans la plupart des cas, c'est au détriment de l'état de notre cœur. Ce qui fait l'homme dans le sens générique du terme, ou l'être humain, c'est ce qui est à l'intérieur et non pas ce qu'on voit. Car il y a beaucoup d'experts en hypocrisie. Ils vous renvoient une certaine image d'hommes et de femmes très purs, très saints. Mais en réalité, c'est des gens remplis de rapines, de cupidités, de convoitises, de haine. Ils sont les premiers à qualifier l'autre comme n'étant pas digne de vivre. Ils sont remplis de tribalisme. Comment pouvez-vous être tribaliste et prétendre suivre Jésus? Car Jésus aime tout le monde et de la même manière. Nous devons le comprendre et nous devons le savoir. Lorsque le tribalisme s'infiltre dans une église, laissez-moi vous dire une chose, eh bien, l'église signe sa propre mort. Et vous? Il n'y a pas de tribu qui soit supérieure aux autres. Il n'y a pas de race qui soit supérieure aux autres. Que nous dit la Bible? Dieu a tant aimé le monde. Ah. Même tes ennemis là, ceux que tu n'aimes pas, Dieu les a tellement aimés qu'il a envoyé son fils pour eux. Il est grand temps que nous puissions nous laisser, mes amis, renouveler au niveau de notre intelligence, de notre entendement. Et encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Matthieu 5, 8. Puisqu'il en est ainsi, alors, on a besoin de monter, d'escalader, de gravir le mont Tabor, car à son sommet, il y a des révélations pour nous en tant qu'individus, mais aussi des révélations pour son Église. Alléluia. Des révélations de nature à booster notre foi. Des révélations de nature à nous aider à comprendre ce qu'est l'Église, ce qu'est l'Ecclésia du Christ. Des révélations sur ce que Jésus est pour son Église. La relation singulière, particulière, qu'il a, unique, qu'il a avec son Église. Lui qui a dit, je bâtirai mon Église. Celui qui bâtit, et non pas un individu. Et pour qu'il bâtisse, il faut qu'il ait sa place dans l'Église. Et pour qu'il ait sa place dans l'Église, il faut que sa parole soit prêchée sans compromis. Alléluia. Il faut que tout le conseil de Dieu concernant la sainteté, concernant la crainte de Dieu, concernant la pureté du cœur, concernant l'amour de Dieu, l'amour du prochain, que tout cela soit prêché dans l'Église. Alors, cette Église-là, cette assemblée-là, aura toutes les chances que le Christ y soit. Et c'est dans sa parole, puisque c'est dans sa parole que nous pouvons trouver toutes ces révélations, alors, vous comprenez pourquoi je vous ai invité à l'alpinisme spirituel, à cette discipline qui consiste à escalader les sommets des montagnes. Alléluia. Comme je l'avais dit la fois dernière, l'alpinisme est prisé de plus en plus dans le monde. Il y a des gens qui sont passionnés, qui vont de continent en continent, de pays en pays, pour escalader les montagnes, arriver jusqu'au sommet de toutes ces montagnes. Voyez-vous? Pour tous ces gens-là, mes amis, tutoyer des hauts sommets, pour les adeptes de cette discipline, arriver jusqu'au sommet de telle montagne ou telle autre montagne est vraiment un objectif majeur. Et quand ils y arrivent, eh bien, c'est des selfies. Il y en a qui finissent par voir leur nom figurer dans le Guinness Book, dans le Guinness de records. Oui, faisons de l'alpinisme spirituel. Il y a tant de montagnes, nous aurons l'occasion de gravir différentes montagnes afin d'aller recevoir la révélation de Dieu qu'il avait donnée à telle ou telle autre personne au sommet de ces montagnes-là. Mais pour le moment, la montagne qui nous intéresse, c'est le mont Tabor. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas gagner par la fatigue. Voyez-vous, faites un effort. Si vous pouvez, vous voulez vous lever. Si vous voyez que la fatigue, le sommeil commence à prendre le dessus, eh bien, sentez-vous libre de vous lever. Et vous qui êtes autour, ne jugez pas la personne qui se met debout. C'est la preuve qui tient absolument à monter, à gravir le mont Tabor. Acclamons le Seigneur. Et gloire au Seigneur. En ces temps de la fin, ces temps qui sont caractérisés par mille et une choses qui sont nuisibles pour l'Église, qui sont destructrices pour l'Ecclésia, en ce temps de séduction, ce temps d'apostasie, on voit les gens abandonner la foi. Oh oui, ils vont toujours à l'Église, ils ont toujours le nom de Jésus dans leur bouche, mais Jésus n'est plus dans leur cœur, parce qu'ils ont tourné le dos à la parole de Dieu. Ils ont tourné le dos à l'autorité de la parole de Dieu pour se jeter dans les bras de toutes sortes d'enseignements. Voyez-vous, vous les voyez avec des petites brochures. Ils ne lisent plus la Bible. Ils se contentent des révélations, soi-disant, de leurs prophètes ou de leurs prophétesses. Voyez-vous, rien ne remplace la Bible. Voulez-vous mieux connaître Jésus? Lancez-vous dans l'escalade des montagnes bibliques. Lancez-vous dans une lecture profonde et systématique, dans une réflexion profonde et systématique de tous les livres de la Bible. Et vous saurez, et vous verrez combien Dieu est grand. Alléluia. Et donc, montez afin d'expérimenter le Seigneur, là au sommet du Tabor. Tout ça dans un contexte qui est de plus en plus difficile, qui est de plus en plus hostile pour l'Ecclésia du Christ. Mes amis, dans la marche de l'Ecclésia à travers l'espace et le temps, l'Ecclésia de Jésus a toujours été soumise à toutes sortes de pressions. Elle a toujours été soumise, mes amis, à des forces centrifuges. Vous connaissez cette force en physique qui tire vers l'extérieur tout corps en mouvement. Vous voyez? Donc, on part du centre. Plus vous tournez, plus vous êtes animé d'une certaine force qui vous écarte du centre. C'est ça la force centrifuge. Et ces forces-là, mes amis, essayent d'amener, de faire partir l'Église du centre. Et qui est le centre de l'Église? Si ce n'est celui qui s'est révélé au mont Tabor. Alléluia. C'est lui le centre. Mais le monde crée ces sortes de forces, cette sorte de force centrifuge. Le monde exerce, mes amis, en collaboration avec les puissances des ténèbres, toutes sortes de pesanteurs morales et spirituelles qui attirent l'Église vers le bas et qui cherchent à maintenir l'Église dans cette vallée des ossements où elle sera de plus en plus privée de la vie du Christ, où l'Église ressemblera plus à des cadavres, oui, à des ossements. Pression. Pression à l'intérieur, pression à l'extérieur. Commençons avec la pression extérieure ou les différentes pressions extérieures. Il y a la pression du monde, ce monde qui gît dans le malin, ce monde qui est sous l'influence des puissants des ténèbres, est un véritable adversaire de l'Église, est un ennemi farouche. Il est même plus dangereux lorsque le monde sourit à l'Église que lorsque le monde persécute l'Église. Vous devez le savoir. Quand le monde commence à vous applaudir, posez-vous des questions. Ne soyez pas comme ce moustique, je vous ai déjà donné cette illustration. Ce moustique qui vient, des fois, il y en a qui viennent m'agresser tôt le matin. Je dois avoir à chaque fois un petit coussin avec moi. Quand ça passe autour de mes oreilles, je fais ça et continue à prier. Eh bien, le moustique, là, qui commence à tourner autour de vous avec sa mélodie qui dérange, hein? Vous faites ça pour essayer de le tuer. Vous faites ça, mais le moustique bouge. Le moustique pense que vous l'acclamez. Alors, il continue à danser. Faites ça, oh, formidable. Mais au fond, le moustique ignore. Le moustique ne sait pas que c'est pour sa mort. Et avec le monde, c'est pareil. Quand le monde vous acclame, c'est pour votre destruction. Quand le monde vous met sur un plateau, sur un piédestal, c'est pour votre destruction. Quand il vous présente comme étant le prédicateur le plus suivi dans le monde entier, alors sachez que vous êtes plus suivi en enfer qu'ailleurs. Vous voyez? Faites attention. Faites attention. Faisons attention, c'est la pression du monde, mais aussi, oh là là, la pression de puissance démoniaque, de puissance des ténèbres, des dominateurs d'ici bas. ceux qui dominent les portes du Hadès, les portes du Sheol. On en parlera, ça sera le thème du mois de septembre. Ébranlez les portes du Sheol, ébranlez les portes des ténèbres. C'est là que les décisions se prennent. C'est là que, mes amis, les grandes orientations sont données au monde. Mais qui sont assis sur les portes du Hadès, sur les portes du Sheol? Eh bien, nous le verrons. C'est là qu'a lieu le combat. Voilà pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques, contre les forces du mal, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans les lieux. Ah oui, c'est là. C'est là que nous devons les attaquer. C'est là que les grandes décisions pour dominer ce monde sont prises. Voyez-vous, c'est là que ces entités spirituelles prennent en tenaille notre monde et essayent par tous les moyens, avec leurs griffes de fer, d'étouffer l'Église pour l'empêcher d'être l'Église, l'Ecclésia du Christ. Gloire au Seigneur, alléluia. Le monde avec ses antivaleurs, le monde avec son influence malfaisante, maléfique, diabolique, immorale et mortifère. Ce monde dominé par le péché est un véritable ennemi et exerce une pression de plus en plus croissante dans ce temps de la fin. Donc ne vous étonnez pas que les églises aujourd'hui perdent de leur lustre, le lustre qu'ils avaient autrefois, et commencent à ressembler à des groupes folkloriques. Ne vous étonnez pas que des églises qui étaient des églises puissantes autrefois deviennent aujourd'hui des lieux d'amusement, des lieux de divertissement, où les gens vont là-bas pour danser, ngebou ngebou, tout ce que vous voulez, et ils sont là depuis le début du culte jusqu'à la fin. C'est à peine qu'on parle de Jésus. Et quand on parle de Jésus, le pasteur lui-même n'a rien préparé. Il vous parle de Jésus. Ah, Jésus, il nous aime. Amen, amen. Jésus fait ceci. Alors, hey, alléluia, évêque. Alléluia, apôtre. Vous nous flattez, vous nous rendez un mauvais service. Oh, amen. Amen, apôtre. Sois béni. Alors qu'il a dit des bêtises. Alors que ce qui est sorti de sa bouche n'a rien édifié qui que ce soit, mais par fanatisme. Et nous allons le voir, voyez-vous. Il y a aussi la pression de l'intérieur, et nous arrêterons là. Des faux enseignements, des doctrines pernicieuses, des doctrines dangereuses, mes amis, nuisibles, destructrices, des doctrines ou des enseignements fallacieux qui trompent, des enseignements mortifères pour l'Église, mes amis. Tous ces enseignements, on les trouve aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, pour percer, il faut avoir le titre de prophète. J'en vois même au sein de la famille Laborde. Un pasteur qui, du jour au lendemain, commence à signer tel prophète. Oh là, qui a reconnu ce ministère? On ne s'improvise pas comme un prophète. Ce n'est pas parce que tu as donné deux ou trois prophéties que tu deviens prophète. Les gens doivent reconnaître cela comme on reconnaît le ministère pastoral. Voyez-vous, et ce sont des gens qui distraient avec des prophéties mortifères, voyez-vous, des théologies farfelues, saugrenues, loufoques, qui sont enseignées dans des institutions bibliques, qui n'attirent pas l'attention des gens sur la personne de Christ. On se lance dans des études de théologie juste pour avoir un diplôme qu'on va accrocher au mur. Juste pour paraître avec une toge et une toque. Voyez-vous? Juste pour signer docteur D.R. Tel. Et nous, à Kinshasa, ma ville que j'aime, personne ne peut me dire le contraire. Je suis né dans cette ville, spirituellement parlant. Donc c'est ma ville. Eh bien, nous voyons des écoles. J'ai cru entendre qu'on allait mettre un peu d'ordre dans toutes ces écoles supérieures, ces universités qui voient le jour à gauche, à droite, qui poussent comme des champignons ou comme des ligablots. Eh bien, dans ces écoles-là, on donne des doctorats comme ça. Voilà. Quand vous suivez le directeur de la thèse, quand vous l'entendez parler, vous posez mille questions.
Comment quelqu'un comme ça peut conduire, peut aider un doctorant à aller jusqu'au terme de ses recherches? Tout le monde est docteur aujourd'hui. Et c'est la fête. Oui, mais c'est bien que vous soyez docteur. Mais il y a des gens qui ont des doctorats qui ne sont pas intelligents. Je le répète. Il y a des gens qui ont des doctorats qui ne sont pas intelligents. Car l'intelligence est autre chose. Vous pouvez glaner un savoir durant votre cursus académique, savoir que vous pouvez débiter comme un perroquet. À force d'enseigner le même cours pendant 20 ans, eh bien, vous mémorisez tout votre syllabus. Ce n'est pas ça l'intelligence. Un docteur contribue à la recherche dans un domaine précis. Il y a le problème de la problématique de la circulation. On se lance dans une étude pour améliorer. Voilà. Et donc, c'est une recherche profonde. On explore différentes pistes. Et puis, enfin, on arrive à la conclusion. Voilà ma thèse. Pour améliorer la circulation, on fait ceci, on fait cela. Alléluia. Là, votre thèse aura servi à quelque chose. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais on n'en voit pas le résultat. Excusez-moi d'être si direct, parce qu'il y va de l'image de notre pays. Alléluia. Oui. Ces fausses doctrines, ces faux enseignements contribuent à l'endormissement de l'Église, à plonger l'Église dans une sorte de léthargie spirituelle et de torpeur morale. Oui, des enseignements abracadabrantesques. Voilà. Beaucoup de bruit pour rien. Vous voyez tous ces troubadours s'agiter derrière la chaîne. Alors j'aime ça. Vous croyez que Jésus s'agitait ainsi? Oui, ça peut être votre personnalité, mais allez, calmez-vous. Vous n'êtes pas sur un podium pour faire du théâtre. Alors on étudie des postures. Tout ça est étudié pour ceux qui ont fait la communication. Voyez, nous sommes des vieux de la vieille. Voilà. Tout s'est étudié. Ah, je vous dis, Bataba! Tout ça s'est préparé. Pour ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils savent que vous êtes un comique. Vous jouez un rôle? Ah, bababababa. Ah, là, là. Yeah! Nous avons du boulot. Mes frères et sœurs, vous avez dû prier aux yeux du Seigneur. Ne vous laissez pas perturber par tous ces troubadours, par tous ces bonimenteurs qui, avec des enseignements pernicieux, fallacieux, manipulent les gens. Vous voyez? Et tout cela, pour terminer, tout cela, eh bien, momifie l'Église. Eh oui. Tout cela liquéfie la foi des gens. Tout cela fossilise l'Église. Transforme l'Église en une chambre froide. Voyez-vous, un lieu de congélation, comme j'ai déjà eu le souligné. Et là où il y a la congélation, pensez-vous qu'il y a la vie? Prenez votre poulet vivant, mettez-le dans une chambre froide, fermée. Le lendemain, vous trouverez encore le même poulet vivant. Et malheureusement, ce genre d'enseignement transforme l'Église en une chambre de congélation. Voyez-vous, mais Dieu voudrait nous faire sortir de cet état de choses. Dieu voudrait nous amener à monter, à escalader le mont Tabor. Car là, au sommet du mont Tabor, c'est le Christ qui se manifeste dans toute sa gloire. Alléluia. Là, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament deviennent vivants pour nous. Oh, alléluia. Oui, montons, escaladons, c'est difficile. Parce que cette escalade, comme nous le verrons plus tard, cette montée se fait péniblement. C'est dans la sainteté. C'est dans la consécration, c'est dans la crainte de Dieu, c'est en payant un prix, c'est en étant fidèle envers le Seigneur, fidèle dans l'engagement qu'on a pris, fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ses offrandes, fidèle dans les promesses qu'on a faites aux uns aux autres. Oui, c'est de cette manière que nous allons monter, petit à petit, mais sûrement. C'est seulement à ce prix-là que nous irons, petit à petit, vers le sommet du mont Tabor. Et en arrivant au sommet du mont Tabor, c'est le Christ qui se glorifie. Et là, l'Église se réveille comme le 3 qui était plongé dans le sommeil. quand le Seigneur manifeste sa gloire, ils sortent du sommeil. Nous l'avons lu, non? On n'a pas joué le tam-tam au sommet du Mont Tabor. Il n'y a pas eu de concert, de concert d'adoration. Mais il y a eu le Christ, le Fils du Dieu vivant, en prière. Il y a eu lui et lui seul, celui qui doit être au centre de notre assemblée, celui qui doit être le cœur de la borne, celui qui doit être la tête de la borne, celui qui doit être le bras de la borne, les pieds de la borne, les yeux de la borne, celui qui doit être le centre de nos vies, celui qui doit être l'hôte suprême de notre existence. Nous devrions lui laisser toute la place afin que lui soit au centre et que nous, nous gravitions autour du centre. Alléluia. Que son nom soit loué. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce message. Combien nous aimerions aimer ton Église comme tu l'as aimée, au point de donner ta propre vie à la croix. Combien nous aimerions, Seigneur, posséder ce corps dans la sainteté, car nous sommes des cellules vivantes dans ton corps, dans ton Église, dans ton Ecclésia. Et en tant que cellules, nous voulons contribuer à l'épanouissement de ton Église, au rayonnement, à la brillance de ton Église. Nous voulons contribuer à faire retrouver à ton Église sa splendeur d'autrefois. Alors aide-nous à monter, à escalader le mont Tabor par une vie de sanctification, par une vie de fidélité envers toi et envers ton assemblée, par une vie, Seigneur, de consécration, une vie de soumission à toi, mais aussi de soumission à l'autorité de ta parole. Merci de bénir cette parole en nous, dans nos cœurs, et de bénir également ce moment réservé aux offrandes. Au nom de Jésus. Amen.